Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sincèrement comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à la tech. Bienvenue dans De quoi je me mêle les amis, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé le week-end. On est aussi sur YouTube, la version audio. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Merci, merci encore. En tous les cas, encore une fois, nous allons passer une heure pour commenter l'actu tech avec nos spécialistes qui sont là. Je vous rappelle aussi qu'avec le hashtag DQJMM, vous pouvez réagir sur Twitter. Merci encore une fois d'être là et c'est parti pour De quoi je me mêle. Et pour commenter l'actu, eh bien, un duo inédit. On est ravis d'avoir Gonzague d'Ambricourt avec nous. Alors, Gonzague que vous connaissez bien sûr, hein, mais il est aux côtés de JB de The E-Collection. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour.
Ravi de te retrouver.
Moi aussi.
Tu étais dans De quoi je mêle il y a quelques semaines cela avec Anthony. Et voilà, on est ravis de vous retrouver tous les trois pour commenter l'actu de cette semaine. Une actualité, très riche avec donc la Google I.O. qui s'est déroulée mercredi soir à Mountain View. Vous savez, au siège de Google, la Google I.O. chaque année, et bien voilà, pendant plusieurs jours, tous les développeurs du monde entier sont invités, alors soit physiquement, soit virtuellement, à découvrir toutes les nouveautés que Google, en fait un peu la feuille de route hein, de Google pour l'année en matière de logiciels, de tendances, c'est ça hein, Gonzague, un peu la Google
ouais,
I.O.
Exactement, c'est le rendez-vous que la marque établit alors avec les développeurs initialement et puis finalement beaucoup avec la presse maintenant, parce que ce sont des événements de communication, comme l'événement Apple qui aura lieu dans deux semaines, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on annonce les interfaces, la façon dont vous allez pouvoir travailler avec les produits qu'on a, les produits, qui étaient aussi quand même une particularité, le jour où Google s'est mis vraiment à faire du hardware, et là il y a eu pas mal d'annonces hardware,
ouais.
On pourra revenir là-dessus.
Ça faisait longtemps qu'à cette période de l'année, il n'y avait pas eu autant de hardware,
et donc c'est plutôt cool. Et je pense que c'est aussi l'événement pour rattraper leur retard sur tout ce qui est intelligence artificielle, la concurrence de ChatGPT et des intégrations que Microsoft a fait dans Bing, les pousse un petit peu, donc on a vu ces dernières semaines beaucoup de tâtonnements, et là je pense qu'ils essayent de se réaffirmer comme leader.
Oui, Alexander Pichai qui a ouvert évidemment cette keynote, qui a duré un bon moment, hein,
plus de deux heures, non?
Ouais, plus de deux heures.
Et justement, plus d'une heure sur justement uniquement l'intelligence artificielle.
Ben ouais, bien sûr.
Donc, c'est qu'ils avaient vraiment du retard à rattraper pour le coup.
Alors, c'est pas la première année qu'ils parlent d'IA. Hein. Google, non. C'est un peu leur fer de lance. C'est ça qui est terrible en plus. C'est que c'est des gens qui poussent ça depuis de très nombreuses années. C'est peut-être les pionniers d'ailleurs dans l'IA. Mais ChatGPT est arrivé par là, a donné un coup de boost incroyable à OpenAI et à Microsoft. Et Google s'est retrouvé un petit peu en retrait sur des travaux qu'ils font depuis des années. On se souvient l'année dernière de toutes les innovations, beaucoup sur la traduction. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, il y avait ces lunettes.
T'avais l'assistant qui appelait les restaurants pour savoir s'ils étaient ouverts, enfin les business, voilà, et qui se faisait passer pour un humain, ce qui avait été aussi assez controversé quand
même. Donc ils avançaient déjà sur cette direction-là, mais ils y allaient, on va dire, mollo.
Mais en fait, là, c'est un paysage complètement différent. L'intelligence artificielle et les large language models, les LLM, donc c'est ChatGPT, c'est Bard, etc. Et c'est aussi ce qu'a fait Meta. Ce qui est que c'est quelque chose. Il y a un courrier d'un salarié Google qui a fuité, qui dit on n'est plus du tout dans la position de leader qu'on avait jusqu'à présent. Ce leadership, on peut le perdre en un mois. Et c'est ce qui s'est passé avec OpenAI, qui a fait complètement disparaître de l'actualité et du devant de la scène Google, qui revient maintenant avec Bard. Donc en fait, là maintenant, ça va être un concours de...
Oui, bien sûr.
Alors, qui a tiré en dernier et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as intégré qui va aussi révolutionner le quotidien des gens?
Mais qu'est-ce qui marche le mieux aussi? Parce que c'est ça aussi...
Et donc, c'est vrai que dans le passé, ils faisaient déjà énormément d'intelligence artificielle, bien sûr. Google Maps, par exemple, c'est quand même déjà un produit qui fait plein de trucs sans qu'on s'en rende compte, d'analyser les photos, les façades, machin. Là, on va dans un autre paradigme et qui change de ce que Google avait formulé, qui est juste de catégoriser du contenu, de l'enrichir. Là, ça change complètement et je pense qu'on pourra l'aborder. Rien que la recherche Google va changer de façon assez fondamentale et c'est potentiellement un danger pour tous les éditeurs de sites web.
Ouais, Alors, on va revenir sur les annonces, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces concernant l'IA, aussi sur les produits. Hein, et d'ailleurs, tu es venu avec le tout nouveau le Pixel 7a, qui est, on va dire, l'entrée de gamme. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de cette Google I.O., JB ?
Que Google s'est aperçu que même si c'était leader sur le domaine de la recherche, bah, ils ont une grosse concurrence qui arrive de tous les côtés, que ce soit dans les smartphones, ça existe depuis bien longtemps, mais surtout sur toute l'intelligence artificielle, sur le machine learning et sur les recherches. Et en fait, ils se sont dit, en fait, ok, on est connu et reconnu par le grand public de tout le monde, mais il faut quand même qu'on mette la seconde pour rattraper tout le retard qu'on a eu. Donc je pense que c'est pour ça que pendant une grosse heure, ils ont parlé beaucoup d'intelligence artificielle sur tous leurs sites, que ce soit Google Maps, que ce soit Gmail, que ce soit la recherche et autres, et qu'ensuite ils soient passés dans tout ce qui est produit, parce qu'il y a quand même trois annonces de produits majeurs. Ce qui est assez rare dans une conférence qui est de base axée 100% pour les développeurs.
Ouais. Gonzague, on a l'impression que Google s'est mis un peu, s'est pris les pieds dans le plat en se disant, je travaille sur l'IA depuis des années et des années, mais finalement, cette IA doit être transparente. Les gens ne doivent pas trop sentir qu'il y a de l'IA, alors que OpenAI, c'était tout l'inverse. J'ai un peu cette impression-là.
Ouais,
et puis d'un coup, là, Google se dit, waouh, mais attends, on est en train d'aller dans la mauvaise direction.
En fait, ils ont été bousculés par les autres. Parce que toi, tu peux te dire, tête dans le guidon, ok, l'approche qu'on a, elle est excellente et on va faire ça. Et quand t'es leader, c'est un peu le danger. Ouais. Ils ont des milliers d'employés, tout le monde leur dit Google, c'est trop fort, c'est trop bien. Et arrive, alors c'est pas une si petite boîte que ça, OpenAI, avec des idées différentes, des façons de faire et un intérêt du public aussi. Parce que l'adoption de techno, oui, comme
il y a
GPT,
une médiatisation incroyable.
En fait, quand mes parents savent ce que c'est, quand les enfants de mes amis savent ce que c'est, c'est très très différent.
On peut dire que ça a été
ça en 6 mois.
Une innovation de rupture.
Complètement.
Finalement.
Donc ça change la façon dont on interagit avec l'informatique. Ce qu'on voit aussi là ces derniers jours, c'est, les plugins de GPT qui permettent de faire du code, de générer. Enfin, on est en train de changer la façon dont on fait de l'informatique et dont on interagit avec des systèmes, avec de l'information, avec les langues, parce que les LLM, ils comprennent des tonnes de langues. Alors, on verra, il y a une limite à Google Bard qui, pour l'instant, ne parle pas français.
Ne parle pas français.
Donc,
là encore, c'est bizarre.
Ça change tout.
C'est un signe. ChatGPT est arrivé. Le jour où ils ont appuyé sur le bouton, ils ont libéré la bête. Bah, ça parlait, je ne sais pas combien de langues, et notamment le français, quoi.
Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu il y a 2-3 semaines, justement, Samsung qui disait que peut-être ils allaient abandonner Google en natif dans les smartphones et prendre Bing à la place qui embarque ChatGPT. Je pense que Google a encore voulu mettre la seconde lors de la Google I.O. pour justement dire à Samsung, bon, regardez quand même, nous, on va quand même vous proposer de l'intelligence artificielle derrière ça. Ne partez pas directement, on est là, parce que derrière, il y a des gros billets qui se vaut.
Oui, bah, ils ont une stratégie qui est un petit peu insidieuse. C'est Google Chrome, navigateur le plus utilisé au monde, le plus déployé.
Donc, bien sûr, ça très efficace force, aussi.
Très efficace, mais qui t'enferme, parce qu'il y a des sites qui ne marchent plus que dans Google Chrome. On revient à des vieux trucs où on disait, vous avez Internet Explorer 5 ? Et bien là, maintenant, si vous n'avez pas Chrome, le site ne marche pas. Donc, ils ont cette grosse base de développement. Ils ont Android. Énorme marché, énorme moyen d'être présent dans le monde. Effectivement, si c'est challengé par les autres, très très compliqué. Ils payent Apple des sommes astronomiques pour être le moteur de recherche sur iOS et sur macOS. Donc tu vois, oui, ils sont dominants, mais aussi parce qu'ils mettent de l'argent dans plein de trucs. Et si cette position elle est challengée si vite, tout se remet en question, toute ta stratégie, toute la confiance que tu avais, elle est un peu ébranlée. Et la façon, l'évolution des LLM, et en fait finalement de l'intelligence artificielle et nos interactions avec, fait aussi que si tu t'es enfoncé dans un chemin très précis et qu'il y a quelqu'un qui a une autre approche, qui tout d'un coup est beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins de risques aussi, parce qu'on a vu quand même aussi les risques de ce genre de système qui peut proférer des âneries avec beaucoup d'assurance.
Oui, tout à fait.
Et ben, en fait, si tu découvres une autre façon de le faire, et c'est ce que des chercheurs déclarent ces derniers temps, c'est que dans 6 ans, on n'utilisera même plus ChatGPT. Ce sera plus du tout pareil. Ça aura totalement changé la façon dont ça marche. Et donc, c'est un challenge énorme pour Google et pour les autres.
Alors, donc Google accélère sur l'IA et ça arrive en fait dans des environnements qu'on connaît bien. Par exemple, dans Gmail. Où il y a eu des démos assez impressionnantes. Vous avez Gmail qui répond automatiquement à un mail que vous avez rien à faire quoi.
Ouais, ils avaient déjà lancé, je crois que tu utilises aussi Gmail. Ils avaient déjà lancé l'autocomplétion, donc ils commençaient à taper. Ça te disait bonjour François, parce que il sait que t'as mis François comme destinataire. Des trucs tout bêtes où à l'époque il disait qu'il n'y avait pas de pièces jointes. Là, effectivement, on va vraiment dans le génératif. Donc c'est
on se rapproche de ChatGPT.
On se rapproche de ChatGPT, c'est qu'en prenant le contexte des mails précédents. Je peux déduire la réponse. et ils vont l'intégrer dans d'autres produits, donc dans Docs, dans Sheets, etc. Ça prend des formes différentes. Donc là, on a l'image, le Google Docs qui commence à écrire un texte en disant aide-moi à rédiger un intitulé de poste, etc., une fiche de mission, et paf, ça le structure. Bon, encore une fois, faut faire attention, mais
c'est
impressionnant. Et ça revient sur ce qu'on se dit à chaque fois, sur la transformation que ça peut induire dans nos métiers, même les nôtres, du journalisme ou perso pour l'informatique, ça me concerne
aussi.
C'est
bizarre parce que, alors, peut-être parce qu'on a, on n'a pas eu l'habitude de faire ça, mais moi, ça me gêne de me dire que c'est Google qui va répondre à un mail, à ma place.
C'est impersonnel.
C'est impersonnel, ouais. Et puis je me dis, finalement, est-ce que je vais pas prendre plus de temps à relire le mail pour voir s'il y a pas une connerie? Parce que, enfin, je veux dire, un mail, c'est un hyper perso, deux, pour le job, tu peux pas écrire n'importe quoi. Enfin, c'est bizarre. Autant ChatGPT, c'est souvent un travail que tu vas pouvoir relire tranquillement, etc., parce que c'est pas quelque chose que tu vas poster comme ça automatiquement. Mais là, un mail, c'est étrange.
Ouais. Moi, je sais que je le ferai pas. Parce que j'aime bien déjà rédiger les mails et qu'ils soient un peu personnels sur chaque personne à qui on envoie un mail.
Bien sûr, évidemment.
Et surtout que oui, en effet, ça peut se tromper, ça peut mettre moi la place d'un autre mot, on sait jamais, même si c'est vachement intelligent, mais bon, jamais. Et ce que j'ai peur, c'est surtout qu'on devienne peut-être des assistés et qu'on ne fasse plus des choses par nous-mêmes. Qu'on se dise, bon, ben, on n'a plus rien à faire, on
est
plus
déjà.
Bouton.
Ouais, on l'est déjà.
Mais là, ça va quand même très très loin. Ah ouais, ça va très très loin et je pense qu'il y a quand même une limite à garder sur ça. Mais pour rebondir sur justement l'IA de Bard, maintenant ils ont même rajouté sur les photos et les vidéos. Mmh. Parce que là, de base, ChatGPT, c'est que du texte. Mmh. Mais là, on peut par exemple mettre une photo et en fait, il va nous analyser tout ce qu'il y a dans la photo. On peut lui dire, bah, raconte-moi une histoire sur cette photo et on a deux chiens et tu vas nous raconter une histoire sur les deux chiens.
Il va créer une histoire.
Il va tout créer sur justement une base de photos ou d'audio ou de vidéo. Ouais, très loin.
Ils ont
peut-être un jour, il pourra nous faire le sommaire de quoi je me mêle simplement en lui envoyant une photo de nous trois. Ils vont dire, bah tiens, Gonzague,
vu vos expressions,
le réseau. Ah ouais.
Sur la table, il y avait un pixel de Bose, vous allez parler de Google.
Ben, c'est ça.
Non, donc ils ont l'intégration dans Gmail. Alors, effectivement, comme on dit, c'est pas forcément l'intégration la plus évidente. Dans Google Docs, je pense que c'est peut-être plus pertinent de dire, fais-moi un sommaire de ce que je pourrais raconter si je parle de l'intérêt des montres connectées. Genre, JB, il a envie de se faire un speech sur une émission. Ça peut donner des bases structurées. Évidemment, ça veut pas dire que ça va tout faire à ta place, ça veut pas dire que tu l'enrichis pas toi-même, et ça veut pas dire qu'il faut pas corriger. Mais c'est vrai que ça peut aider dans certaines tâches. Le truc qu'on va voir aussi, à mon avis, qui va changer, là, ces dernières années, on parlait déjà beaucoup de no-code, qui permet de faire des applications sans savoir programmer. On prend des choses entre elles, on les connecte, ça nécessite quand même d'avoir un peu la logique de comment marche une base de données et tout. Mais là, le futur du truc, c'est dit, fais-moi une application qui permet de faire l'inventaire de ma cave à vin. Clac, crrr.
Incroyable.
Et l'appli, elle sort. Explique-moi la comparaison entre. Il y a des mots qui sont assez impressionnantes, là, des gens qui prennent des chiffres qui ne sont pas capables de mettre eux en perspective et disent fais-moi une carte des pays les plus attractifs au monde et ça va cumuler tout seul plusieurs critères, ça va le faire. C'est assez dingue. Après, alors si on veut parler des autres produits dans lesquels il s'intègre, Bard, et avec lesquels il s'intègre, Bard et Firefly de Adobe.
Oui.
Donc là, ils vont faire un système où tu vas pouvoir générer des images. C'est ce qu'on connaît avec DALL-E, etc.
Avec Midjourney aussi.
Avec Midjourney, je pense que c'est l'approche de Google et d'Adobe pour se dire, ne nous faisons pas oublier dans cette course où effectivement, c'est vrai que Midjourney, c'est maintenant le plus bluffant là, avec la release 5.1. C'est...
Et puis Adobe est vraiment, alors on va dire, tout aussi menacé que les autres finalement.
Ah ouais,
tout ça, parce
mais
que
regarde,
la retouche photo, c'est presque...
Photoshop, ouais.
Non mais c'est dingue, c'est incroyable. En quelques semaines,
ouais,
tu te retrouves avec un outil qui perd en intérêt parce que finalement, retoucher une photo, demain, c'est pas la photo que tu vas retoucher, tu vas la refaire, quoi.
Ouais, ça c'est Magic Editor, donc c'est dans Google Photo, il y aura effectivement cette fonction. Alors ils avaient déjà la gomme magique. Et en fait, ça, c'est. Au final, c'est quelque chose que.
Mais bien sûr.
Que Photoshop et les autres font déjà depuis longtemps, de mieux en mieux, hein, puisque ça s'est appuyé sur la puissance des ordinateurs pour essayer de comprendre ce qu'on efface et ce qu'il faut remettre en remplacement du vide. Le Magic Editor ira un peu plus loin. Tu vas vraiment pouvoir complètement transformer ta photo. Et là, il y a des trucs où, en quelques clics, tu changes de coupe de cheveux,
on enlève une tache sur un vêtement, on change le ciel, on peut tout faire.
Voilà, donc c'est
sur son smartphone ou sur Google Photos.
Donc tu peux manger des pâtes à la bolognaise et après tourner une émission sans aucun problème.
C'est assez bluffant. Mais je pense que la démarche, c'est que Adobe va intégrer ce genre de choses dans ses outils. Après, je sais pas si Photoshop est menacé. C'est des outils un peu professionnels quand même, tu vois. J'ai l'impression que ce qui est plus menacé, c'est les outils du quotidien qui sont utilisés vraiment par des masses plus fortes, ça va transformer la façon dont on fait du Photoshop sûrement. Ça va peut-être transformer la façon dont on fait des sites web, dont on fait tout, puisque tu peux être aidé à faire du code comme on le voit encore.
Alors on prend un peu de recul là, mais c'est vrai qu'on manque énormément de développeurs et de codeurs. Ouais. Et on a eu des appels incessants de la part des pouvoirs publics, des écoles, enfin tout le monde, de dire il faut former des développeurs, des codeurs, etc. ChatGPT code.
Oui.
Développe des trucs. Est-ce que ça va pas aussi freiner l'appétence de ce métier? Dont on disait qu'il était hyper indispensable, que ça allait être la direction qu'il fallait prendre pour beaucoup de jeunes. Non, je me pose la question.
Je pense que le métier de développeur, déjà, comme beaucoup de métiers, il change dans le temps. Avant, quand tu développais, tu partais vraiment de zéro. Après, il y a eu ce qui s'appelle les frameworks, qui sont des espèces de bases de code qui te permettent de pas réinventer la roue à chaque fois. Et là, on approche en fait vers ce genre de choses. Donc, le métier de développeur change.
Mais est-ce qu'on en aura autant besoin?
Je pense quand même.
Parce que finalement, je sais plus qui m'expliquait que tu peux simplement avec ChatGPT te créer une appli.
Oui. Ouais.
En quelques minutes.
Oui, je pense que pour le moment, en tout cas, à date, ce qui évolue, et c'est comme on en parle à chaque fois, le métier du comptable. Le métier du comptable jusqu'à présent, c'était beaucoup d'entrées des chiffres et de les faire correspondre dans un tableau. Ça, c'est largement automatisable, donc on va plus vers l'expert comptable, vers aide-moi à comprendre ces chiffres, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète de tel ou tel truc? Tu vois, on apporte de l'expertise, alors que l'informatique peut aider aussi à apporter. Sur le développement, il faut quand même aussi se dire, pour l'instant, ChatGPT et les autres ne font pas un programme énorme, structuré, avec des tonnes
aujourd'hui,
de fonctions.
Aujourd'hui, Gonzague.
Bien sûr, aujourd'hui. C'est pour ça que je disais aujourd'hui. Donc, effectivement, peut-être que d'ici quelques années, ça aura changé.
Parce
et on sera.
Tu vois qu'il faut une inertie de 3 ans, peut-être, pour former un bon développeur. Où est-ce qu'on sera dans 3 ans?
Je pense que l'intérêt restera quand même d'avoir compris comment fonctionne un programme pour pouvoir aussi le dépanner, l'améliorer. Peut-être que tu ne l'écriras plus, mais peut-être que tu seras ce qu'on rigole du prompt engineer, les gens écrivent des prompts à ChatGPT et autres, en disant il faut savoir comment structurer la demande que tu veux faire. Et c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est doué sur Google, quelqu'un qui est doué en recherche Google, il sait écrire sa recherche pour obtenir très vite son résultat. C'est là, le métier changera comme ça, je pense.
Mais je pense que rien ne remplacera le cerveau humain. Que quoi qu'on en dise, le cerveau humain, lui, il est multifacette, il réfléchit partout, il peut créer, il peut imaginer ce qu'une intelligence artificielle ne fait pas, puisqu'elle se base juste sur ce qu'elle a appris sur Internet. Donc en soi, on aura toujours besoin du cerveau humain pour directement améliorer le code, améliorer un script, améliorer un texte. Donc ça peut être une bonne base, mais pareil, comme pour les comptables, ça peut remplacer les comptes, enfin la comptabilité classique, mais si on a besoin vraiment de beaucoup plus d'informations, on aura besoin d'un cerveau humain qui va rassembler toutes ces données, qui va permettre de faire un vrai tableau d'expert comptable. Donc je pense qu'on en aura toujours besoin des humains derrière et que ça ne pourra pas remplacer à 100% l'humain.
Après, revenons à cette conférence Google I.O. Effectivement, le cœur de métier de Google, encore aujourd'hui, c'est la recherche. C'est la puissance de Google, qui est un outil incroyable, qui a bouleversé nos vies. Est-ce que Google va modifier, on va dire, sa mine d'or, en quelque sorte, sa poule aux œufs d'or?
Alors moi, je dirais qu'ils ont 4 métiers. La recherche, la publicité, et les services en entreprise qui sont Google Workspace, donc tout un environnement de collaboration de mail, etc. Et la Google Cloud Platform, qui est le concurrent de Microsoft AWS, qui est un marché très très important pour eux. Effectivement, sur le search, pour ta question.
Et le search et la pub sont intimement liés.
Bien sûr, mais la pub, ils ont de la chance, c'est que ça marche aussi via d'autres sites, via YouTube. C'est la liaison de beaucoup de produits entre eux. Tu as de la pub dans Waze, qui est de la pub gérée par Google. Sur la recherche, là, ils ont présenté à la conférence I.O. de l'IA générative, donc c'est comme ChatGPT, capable d'écrire du texte dans le moteur de recherche. Donc tu fais une recherche et Google te répond un texte qui va être placé avant les résultats des sites web. Donc si tu as trouvé l'info que tu cherchais...
Mais on l'a déjà ça finalement. Quand tu tapes, je sais pas moi, un truc, parfois tu as du contexte contextuel depuis des mois.
En fait, c'est du contenu formaté. Donc les sites web, ils décrivent ce qu'ils ont noté, comme par exemple une FAQ. Et Google va identifier, ça répond peut-être à la question et te lister les trucs. Donc effectivement, déjà, ça a enlevé du trafic au site web, qui pour l'instant vivait du fait que tu vas sur Google, tu cliques sur un résultat, quand tu vas sur le site, la pub s'affiche, l'éditeur du site gagne de l'argent. Ouais. Là, si on fait ça, effectivement, ça réduit le trafic vers les sites web. ça augmente aussi le ça reste captif de Google pour le
c'est plutôt une
l'internaute.
Bonne nouvelle pour Google.
Une bonne nouvelle pour Google, c'est une mauvaise nouvelle pour les éditeurs de sites. Donc ouais, là ils ont présenté dans ce qui s'appelle les Search Labs chez eux, c'est donc le laboratoire de la recherche, l'IA générative qu'on voit à l'image pour ceux qui nous regardent en vidéo et qui donc va te répondre et peut-être que tu auras plus besoin d'aller sur les sites et tu vas pouvoir aussi dans le futur chatter avec, c'est ce que Bing propose déjà dans
JB,
avec ChatGPT.
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que
ça va faire encore une fois gagner beaucoup de temps et que le temps c'est l'argent et que finalement quand on peut gagner du temps à des tâches qui sont un peu répétitives, c'est toujours bien. Quand on a juste à mettre une question sur Google et d'avoir la réponse sans devoir cliquer sur 3-4 liens où finalement on a des pavés de texte, des pubs qui se mettent au milieu, ça fait quand même gagner du temps, c'est cool.
Il y a Google Maps aussi qui va être boosté. Alors
incroyable.
Ça c'est génial. La météo va apparaître sur Google Maps. C'est des trucs incroyables.
Le Google Maps immersif qui s'améliore.
Un vol d'oiseaux.
15 villes pour l'instant, dont Paris, et qui va être déployé d'ici la fin de l'année. Ça c'est très joli. Bon, c'est au quotidien, ça ne change pas trop.
Ouais, mais ça c'est une petite fonctionnalité.
C'est
sympa,
chouette en fait, effectivement, pour se balader sans bouger. Si un jour le Covid revient, je touche du bois.
Un mot maintenant sur les produits, parce qu'on le disait, c'est quand même important. Et c'est arrivé à la fin de la présentation. Pas mal de choses. Tablette.
Smartphone.
Le Pixel 7a que tu as en main, que tu as déjà un peu pris en main, c'est ça qui est...
Exactement. En fait, Google, à chaque mi-année, parcours des Pixels grands chiffres, ils sortent une version A, qui est une version un peu moins performante des autres, mais du coup moins chère. Bon, sauf que celle-ci, elle est 100€ plus chère quand même que la génération précédente, parce que je pense, comme partout, les prix augmentent. C'est un très bon téléphone, c'est un téléphone milieu de gamme à 509€, 5G, qui est très joli, 6,1 pouces d'écran, 90 Hz, appareil photo 48 millions de pixels, il fonctionne super bien, il a la nouvelle puce Tensor G2, qui est justement la propre puce de Google côté performance, et c'est un très bon téléphone pour le coup, et qui est bien aidé par l'intelligence artificielle de Google dans les photos, dans la prise de photos.
Ouais. Et c'est un peu le point fort de cet appareil.
Totalement,
hein, c'est les photos.
Et surtout, comme c'est full Google, c'est-à-dire qu'ils font le hardware et le software, tout marche en symbiose, comme Apple, iOS, c'est pareil. Donc c'est un super téléphone, vraiment.
Beaucoup de différences avec le Pixel 7 Pro en termes de qualité photo, justement. Je crois qu'il y a, peut-être un objectif.
Il y a un capteur en moins, mais celui-ci vient plus concurrencer peut-être le Pixel 7 petit format.
C'est ça.
Il y a un capteur en moins qui est un peu plus le même design et le même style d'écran. Ça reste assez proche, mais il est un peu moins spéqué. Et on voit par exemple que les bordures d'écran sont un peu plus grosses que sur les Pixel 7.
Oui,
voilà, il y a quelques petites.
Il est moins premium, on va dire, en termes de finition.
Mais il a quand même de la recharge sans fil, il est IP68, il a un écran résistant, il a un écran qui réagit très bien, qui est 90 Hz. L'année dernière, c'était du 60 Hz. Et bref, c'est un bon petit téléphone, vraiment.
Ouais, plutôt joli en plus. Là,
et c'est le seul qui sort en France, parce que Google a à côté annoncé son fameux Pixel Fold.
Alors voilà, ça aussi.
Sa tablette, son smartphone tablette en soi, mais qui lui ne sortira pas en France.
Ça alors.
On est boudé.
C'est bizarre quand même.
Je comprends pas trop la politique commerciale, mais même sur les Pixels.
Ça sort aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, et pas en France.
Ouais.
Et alors, quand on pose la question au porte-parole de Google, ils disent oui, parce que la France, alors en plus, bon, c'est un peu vexant quand même, n'est pas prêt encore à avoir des téléphones pliants. Alors pas prêt, c'est peut-être pas le mot, mais le marché n'est pas assez mature, on va dire. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là?
Là, c'est étrange. Pourtant, je commence à voir dans les transports, etc., des smartphones qui se plient. J'y croyais pas
les seuls, parce que Oppo, par exemple, avait pu sortir le Find N et le Find N2 dans d'autres pays, mais pas en France.
Bon, donc apparemment,
c'est pas la première fois.
Oppo va peut-être même complètement quitter la France.
C'est incroyable.
Malheureusement.
Cette histoire-là, quand même, c'est fou, C'est vrai qu'il faudra qu'on en parle un jour un petit peu plus longuement.
Celui-ci ressemble beaucoup au smartphone de chez Oppo qui se pliait, côté format, parce qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact que le fameux Z Fold 5 de Samsung, ou Z Fold 4 plutôt. Le 5, je crois que c'est cette année.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, au-delà de tous les constructeurs chinois, un constructeur américain, Google, s'intéresse aux pliants. Ça veut dire que ça commence un peu à se démocratiser. Ça annonce peut-être le meilleur sur d'autres marques américaines, suivez mon regard, qui pourraient peut-être un jour regarder de près ce format-là. C'est ça qui est intéressant.
Après, celui-ci quand même a des énormes bordures intérieures.
Ouais.
Google a fait un choix assez particulier. Quand on sait que Samsung, ils essayent de faire le moins de bordures. Là, pour le coup, les bordures, on a l'impression d'avoir presque le premier Galaxy Fold en 2019. Donc, comme il sortira pas en France, on peut pas l'essayer. On l'a pas encore testé et on le testera peut-être jamais. Peut-être une deuxième version
L'année prochaine il sortira, en effet. Je pense que c'est aussi une démonstration technologique, parce que ce téléphone fonctionne avec Android 14, qui a été boosté, en fait, pour fonctionner sur les smartphones pliants. On peut imaginer que ça arrivera aussi sur les Samsung lors de la prochaine mise à jour. Et c'est aussi une démonstration technologique. Pour eux, c'est important d'avoir un appareil qui s'ouvre pour montrer, regardez, on a fait Android 14, il est fait pour ça et on vous le montre sur l'appareil qu'on a conçu.
C'est tout à fait le côté plateforme dont on parlait au début en introduisant l'intérêt de
un
la
peu
Google
comme
I.O.
Microsoft et Surface, en fait, qui a souvent lancé des produits avec des concepts logiciels qui étaient liés aux produits qu'ils fabriquaient.
Ouais. Tablette à clavier amovible, vice-versa, ordinateur qui se plie, et ils ont fait...
Mais c'est peut-être ça la force de Google, justement, sur ce fameux Pixel Fold, c'est que souvent, ce qui est reproché aux smartphones qui se plient, c'est que l'OS ne suit pas. Les applications sont pas optimisées, elles sont pas adaptées, on s'y perd, c'est gros, c'est pas assez optimisé. Là, c'est Android L, version donc large écran qui se plie. C'est peut-être le premier smartphone qui est 100% adapté, optimisé aux applications qui se plient, qui s'ouvrent. Affaire à suivre, il y a le tablet mode qui est un peu le flex mode de Samsung qui existe. Ouais, il y a même un mode pour la traduction où on peut le déplier, regarder nous quelque chose et la personne derrière via l'écran va avoir la traduction en temps réel. Il y a pas mal de fonctionnalités qui existent. Encore une fois, c'est pas en France, donc ce sera pas pour nous, mais ça amène que du bon sur le monde du pliant.
C'est un peu dommage que ça sorte pas en France, mais que voulez-vous. Voilà. Un mot aussi sur une tablette qui a été présentée. Alors, elle a été présentée l'année dernière. Et je trouve qu'elle est plutôt intelligente, cette tablette. À la fois le petit support qui permet de la poser et ça la transforme en quelque sorte en dock Google Home, un truc comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
En fait, ils ont fait le bon pari de se dire, on a créé depuis des années un Google Home, un Nest Hub qui permet d'avoir une tablette pour chez soi, pour la maison. Sauf que désormais, on peut la détacher de son socle, cette fameuse tablette, et partir avec et faire sa vie un peu comme une tablette classique. Donc, cette tablette, elle sort là dans les prochaines semaines. Elle a un large écran, elle a plusieurs micros, plusieurs appareils photo, plusieurs haut-parleurs. Elle permet, une fois qu'elle est posée sur son dock, d'être un vrai appareil de maison pour gérer sa domotique, pour gérer tout ce que l'on souhaite avec l'assistant vocal Google, bien entendu, assistant. Et cette tablette, en plus, elle est compatible Chromecast. Donc, on peut, avec son smartphone, envoyer du contenu dessus. Et via le charging dock, on voit justement à l'écran qui est une petite base qui vient s'aimanter avec la tablette. Eh bien, on peut envoyer du contenu, faire des visios, on peut tout faire.
Ouais, c'est un produit 2 en 1. C'est plutôt malin. Ouais.
Heureusement, parce que 679€ quand même en France. Alors, 499 aux US, mais...
Et voilà, on rajoute quasiment 200€ de taxes, de copie privée,
mais
de
c'est vrai, je suis super d'accord sur l'intérêt du produit versus effectivement Amazon qui a sorti également ses assistants domotiques qui sont des grosses tablettes, mais coincées. Et en fait, si t'es dans ta cuisine, ergonomiquement, c'est pas forcément génial d'être coincé. T'as peut-être envie de bouger dans ton canapé. Ça, c'est pas mal. On aime bien.
Et bien voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette Google I.O. pour cette première partie de quoi je me mail. On va rester dans tous ces domaines dans un instant parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder dans la deuxième partie. Donc vous restez avec nous si vous êtes à la radio, à la télé, ça se suit. Mais si vous êtes par exemple sur YouTube, ça sera le deuxième module de quoi je me mail avec au sommaire Huawei qui tente de revenir avec un nouveau smartphone. Vont-ils y arriver ? Alexa qui réagit un peu à sa manière avec son assistant vocal. Et puis Zelda qui sort cette semaine, c'est l'événement jeu vidéo, sans doute de l'année 2023. On en parle avec JB et avec Gonzague, à tout de suite.